Chapitre 59. Le couteau à portée de la main, Nietzsche resta assise pendant ce qui lui parut une éternité. Les yeux rivés sur le dos de Richard, elle se dit qu'elle avait bien le temps de lui planter la lame au-dessous de l'omoplate gauche afin qu'elle transperce le cœur. Oui, cela pouvait attendre jusqu'à l'aube. La mort emportait tout. Elle le savait depuis qu'elle avait vu le cadavre d'Howard. Elle voulait regarder encore un peu Richard, vivant. Pour une raison qui la dépassait, elle ne se lassait jamais de le voir. Après, elle ne pourrait plus poser les yeux sur sa dépouille, parce qu'il aurait disparu à jamais. Avec les dégâts causés par les carillons, elle doutait qu'une âme puisse encore gagner le monde des esprits. Le royaume des morts existait-il toujours? Peut-être bien que non. Dans ce cas, tout ce qui avait été Richard cesserait simplement d'exister, comme s'il n'avait jamais arpenté cette terre. Comme anesthésié, Nietzsche perdit toute notion du temps. Quand elle jeta un coup d'œil à la fenêtre que Richard avait fait installer avec son argent, elle constata que le ciel rougeoyait déjà. À cause du sort de maternité, elle ne pourrait pas utiliser son pouvoir pour tuer Richard. Évidemment, elle avait son dakra, l'arme pointue et en temps normal magique qu'elle gardait en permanence dans sa manche, mais s'en servir contre le sourcier déchu lui semblait inadéquat. Tous les deux avaient renoncé à leur passé, provisoirement pour Nietzsche, et recourir au dakra serait revenu à violer les règles du jeu. Bien que cette idée lui répugnât, surtout depuis qu'elle avait achevé Hanya, elle devrait se servir du couteau. Nietzsche s'en empara. Il faudrait qu'elle fasse vite, car elle ne pouvait pas supporter l'idée que Richard souffre. Sa vie n'avait pas été facile. Il méritait une fin rapide et sans douleur. Quelques convulsions, et tout serait fini. Soudain, Richard roula sur le dos puis s'assit sur son lit. Toujours sur sa chaise, Nietzsche le regarda se frotter les yeux. Pourrait-elle le tuer alors qu'il était conscient? Lui plonger une lame dans la poitrine en le regardant dans les yeux? Il faudrait bien, apparemment. « Nietzsche ? » demanda Richard en se levant. « Que fiches-tu donc ? Tu n'as pas dormi ?»«
Eh bien, j'ai dû m'assoupir sur la chaise. »
« Ah ? » ?»«
Où est ? » ?»« Ah, tiens, le voilà. »
Richard prit le couteau que tenait la sœur de l'obscurité.
« Tu permets que je te l'emprunte ? J'en ai besoin et j'ai bien peur après de devoir l'aiguiser pour que tu t'en serves. Avant de partir, ça m'étonnerait que j'aie le temps. Tu peux me préparer à manger ? Après, je devrais filer parce qu'il faut que je voie Victor avant de commencer à travailler. »
Nietzsche n'en crut pas ses yeux et encore moins ses oreilles. Richard était redevenu lui-même. Dans ses yeux, elle voyait briller, eh bien, la vie et la détermination, comme d'habitude.
« Tu peux prendre le couteau ? » dit-elle. « Je vais te faire à manger. »«
Merci !» lança Richard par-dessus son épaule en sortant.
« Où vas-tu donc comme... »
Trop tard, il n'était déjà plus là. Voulait-il ramasser des légumes dans le jardin ? Mais pour ça, il n'aurait pas eu besoin de couteau.
Désorienté, Nietzsche éprouvait en même temps un intense soulagement. Richard n'avait plus rien d'invaincu.
Elle sortit du placard des œufs qu'elle avait mis de côté pour lui, prit une poêle à frire et sortit à son tour. Dans la cheminée commune, le charbon rougeoyait encore. Nietzsche ajouta quelques brindilles, de petites branches mortes, et posa la poêle directement dessus. Pour des œufs, elle n'aurait pas besoin de la grille métallique. Alors qu'elle attendait que la poêle chauffe, un drôle de petit bruit attira son attention. Richard n'était pas dans le jardin. Qu'était-il allé faire, et où ? Elle cassa les œufs dans la poêle et jeta les coquilles sur le tas de compost près de la cheminée. Quand la cuisson fut terminée, elle se servit des plis de sa jupe pour saisir le manche brûlant de l'ustensile et se pétrifia en voyant Richard sortir de derrière la grande cheminée.
« Que fichais-tu là ? » ?»«
J'ai repéré des briques branlantes. Avant de partir au travail, il fallait que je m'en occupe. Les joints sont nettoyés et je rapporterai du mortier pour achever sa réparation. »
Il ramassa une poignée d'herbe et s'en servit pour saisir le manche de la poêle afin de soulager galamment sa compagne. De sa main libre, il lança le couteau en l'air, le rattrapa par la pointe et le tendit à Nietzsche. Elle s'en empara de plus en plus éperluée. Richard mangea debout, avec une cuillère en bois que les femmes laissaient toujours sur le rebord de la cheminée.
« Tu vas bien ?» lui demanda Nietzsche.
« Très bien, pourquoi cette question ?»«
Hier soir, tu semblais abattu et... »«
Je n'ai donc pas le droit de me lamenter sur mon sort de temps en temps ?»«
Oui, sans doute, mais ce matin... »«
Entre-temps, j'ai réfléchi. »«
Et alors ?»«
Je dois faire un don au peuple, n'est-ce pas ?» Offrir aux gens ce qu'ils désirent.
De quoi parles-tu?
Narev et Neil veulent que je fasse du bien aux gens, et je ne les décevrai pas.
Tu vas sculpter cette statue?
Avant que Nietzsche ait fini de poser sa question, Richard était déjà en train de gravir les marches.
Je vais chercher la maquette et je file.
La sœur de l'obscurité suivit son prisonnier dans l'escalier, puis dans le couloir. De plus en plus soufflée, elle constata qu'il continuait à manger en marchant. Dans la chambre, il finit son petit déjeuner en étudiant la maquette, puis il sourit comme un enfant. Ça n'avait pas de sens.
« Je rentrerai très tard, » dit Richard. Après avoir posé la poêle sur la table, il s'empara de son modèle en plâtre.
« Si je peux, je commencerai dès ce soir à remplir la mission que m'a confiée l'ordre. Qui sait ? Je travaillerai peut-être toute la nuit. »
Sidéré, Nietzsche le regarda sortir en trombe. Une fois de plus, il avait faussé compagnie à la mort. C'était invraisemblable et il fallait l'avoir vu pour le croire.
Depuis quand n'avait-elle plus été si heureuse de s'être trompée?
Et pourquoi la soudaine résurrection de Richard l'emplissait-elle d'un tel bonheur?
Richard entra dans l'atelier quelques minutes après que Victor l'eût ouvert. Les employés n'étaient pas encore arrivés, et le forgeron ne fut pas étonné de voir son ami. Richard passait souvent le matin, car ils aimaient contempler ensemble le lever du soleil.
« Richard, je suis sacrément content de te voir. »«
C'est réciproque, Victor, mais je dois te parler. »«
Au sujet de la statue ?»«
C'est ça, oui ?» répondit Richard, stupéfait.
« Tu es au courant ?»
Son ami sur les talons, Richard avança dans l'atelier obscur, slalomant entre les ateliers, les piles d'outils et les tas de pièces en cours de fabrication.
« Mais comment que j'en ai entendu parler ?»
s'écria le forgeron. S'arrêtant de temps en temps, il se baissait pour ramasser un marteau et le remettre dans un râtelier ou jeter dans une poubelle une barre de fer tordue inutilisable, comme s'il avait suffi d'enlever quelques cailloux et branches mortes pour mettre de l'ordre dans un éboulis.
« Comment as-tu été informé ?»«
Le frère Narev est venu me voir hier soir. Il m'a parlé de l'inauguration du fief, une grande fête qui rendra hommage au Créateur pour tous les bienfaits dont il nous fait la grâce. »
En passant à côté, Victor jeta un coup d'œil enamouré à son bloc de marbre.
« Il m'a aussi révélé que tu devrais sculpter une statue pour la grande esplanade. Bien entendu, il faudra que tu aies terminé à temps pour la cérémonie. D'après ce que j'ai entendu dire par Ishak et d'autres amis... » L'ordre pense que la révolte a été provoquée par les sacrifices imposés au peuple pour la conduite de la guerre et la construction du fief. Des dizaines de milliers d'hommes travaillent directement sur le chantier, et il y a aussi tous ceux qui triment dans les carrières, les mines, les forêts. Comme tu le sais, même les esclaves doivent être nourris. La récente purge des fonctionnaires, des responsables et des travailleurs qualifiés n'a rien arrangé. Grâce à l'inauguration... Le frère Narev espère stimuler les gens en leur montrant les résultats de leurs efforts. Les invités venus d'autres pays ne manqueront pas de s'extasier, ce qui regonflera de fierté les habitants de la ville. Bref, ils pensent pouvoir éviter de nouvelles émeutes.
Dans l'entrepôt obscur, la lumière qui filtrait de la haute fenêtre faisait briller le monolithe comme un petit soleil. Victor ouvrit la double porte qui donnait sur l'extérieur.
Le frère Narev m'a dit que ta statue serait également un cadran solaire. La lumière du Créateur brillant sur l'humanité pécheresse. C'est moi qui serai chargé de la fabrication de la pièce métallique. Il est aussi question d'un éclair.
Entendant un bruit, Victor se retourna juste au moment où Richard posait la maquette sur une étagère.
« Par le Créateur !» soupira le forgeron. « C'est grotesque !»«
Et ils veulent que je sculpte ça pour orner la grande esplanade. »«
Ouais, le frère Narev me l'a dit. » Il a précisé la taille de cette horreur et il veut que le cadran solaire soit en bronze.
Tu peux couler du bronze?
Non, c'est la seule bonne nouvelle dans cette histoire. Très peu de gens sont capables de couler une telle pièce. Du coup, Narev a ordonné la libération de Priska.
Il n'est pas mort?
Les têtes pensantes ont dû hésiter à inhumer dans le ciel un type de sa compétence. Jusque-là, il croupissait dans un donjon. Pour rester en vie et en liberté, il devra couler la pièce de bronze à ses frais. Une façon de se racheter. Je dois lui communiquer les spécifications de la pièce, me charger de la finition et superviser son montage sur la statue.
Victor, je peux t'acheter ton bloc de marbre?
Le forgeron se rembrunit et foudroya Richard du regard.
Pas question.
Narev et Neil ont découvert l'histoire de l'amande. Et ils pensent que je m'en suis tiré à trop bon compte. Ils m'ont infligé un châtiment, comme à Priska. Je dois me procurer le marbre et sculpter après mes heures de travail, avec le début de l'hiver comme délai, c'est de la folie.
Victor regarda la maquette sur l'étagère, comme si c'était un esprit du mal venu semer la désolation chez lui.
Richard, tu sais ce que ce bloc représente pour moi?
Mon ami, écoute-moi.
Non, ne me demande pas ça. Je refuse que ce marbre devienne une abomination comme tout ce que touche l'ordre. Plutôt crever que de voir ça.
Sur ce point, je te soutiens totalement.
Vraiment? Tu as vu cette maquette? Comment peux-tu envisager que mon marbre prenne la forme de cette immondice?
Richard s'empara du modèle en plâtre, le posa sur le sol, saisit un marteau et fit exploser en mille morceaux la répugnante statuette.
Victor, vends-moi ton marbre,
dit-il alors qu'un nuage de poussière blanche tourbillonnait dans l'entrepôt.
Non.
Permets-moi de révéler la beauté qui se cache à l'intérieur.
Le forgeron parut ébranlé, mais il ne céda pas.
Ce bloc a un défaut, tu ne pourras pas le sculpter.
J'ai réfléchi, et je sais comment m'y prendre.
Victor posa une main sur son monolithe. On eût dit qu'il voulait réconforter une femme aimée en détresse.
Tu me connais, Victor. T'ai-je déjà fait du mal? Peux-tu citer une occasion où je t'ai menti?
Non.
J'ai besoin de ce marbre. Il est parfait pour ce que je dois faire. Tu as vu comment il reflète la lumière? Son grain est idéal pour une sculpture respectueuse du plus petit détail. Fais-moi confiance, mon ami, et tu ne seras pas déçu. Je ne trahirai pas l'amour que tu éprouves pour cette pierre, c'est juré.
De ses énormes mains calleuses, le forgeron caressa tendrement le marbre blanc immaculé.
« Que se passeras-tu si tu refuses la commande ?»«
Je retournerai en prison et on me torturera jusqu'à ce que j'avoue n'importe quoi ou que je crève entre les mains de mes tortionnaires. Ensuite, on m'inhumera dans le ciel. »«
Et si tu sculptes autre chose ? » ?»« Après ce que tu viens de faire au modèle, je suppose que c'est ton intention. »
Je mourrai aussi, mais après avoir vu la beauté une dernière fois.
Foutaise, que peux-tu créer d'assez beau pour valoir la peine de sacrifier ta vie?
Un hommage à la noblesse humaine, la plus pure forme de beauté qui soit.
Les mains posées sur le marbre, Victor regarda Richard dans les yeux et ne dit rien.
Mon ami, j'ai besoin de ton aide. Il n'est pas question que tu me fasses un cadeau parce que je te paierai. Dis simplement ton prix.
Victor détourna les yeux, admirant de nouveau son monolithe.
10 pièces d'or,
lâcha-t-il, certain que ça mettrait un terme à cette affaire puisque son ami n'avait plus un sou. Richard glissa une main dans sa poche, en sortit une poignée de pièces et en compta 10.
Où as-tu eu cet argent?
Demanda Victor stupéfait.
J'ai travaillé dur et fait des économies. As-tu oublié que je me suis enrichi en aidant l'ordre à construire son palais?
Mais l'amende, Nietzsche m'a dit que toute ta fortune y était passée.
Tu me prends pour un idiot? Un simple d'esprit qui cache toutes ses pièces au même endroit? J'en ai dissimulé un peu partout, mon vieux.
Si tu veux augmenter ton prix, n'hésite pas.
Le bloc était précieux, Richard le savait, mais pas au point de valoir 10 pièces d'or.
Si Victor en voulait plus, il ne discuterait pas. Parce qu'il avait conscience de lui demander de sacrifier bien plus qu'un monolithe, le rêve de sa vie en réalité.
« Je ne prendrai pas ton argent, Richard, »
dit le forgeron.
« Je suis incapable de sculpter, je le sais. C'était un songe éveillé.
Et tant que je n'avais pas commencé, je pouvais penser à la beauté qui se cachait sous la pierre. Ce marbre vient de mon pays natal, qui fut jadis une terre de liberté. Le marbre de Kavatoura est une matière noble qui conviendra parfaitement à ton projet. Le bloc est à toi, mon ami.
Victor, je ne veux pas te voler ton rêve, mais le réaliser à ta place. Tu es très généreux, pourtant je ne peux pas accepter ce cadeau. Il faut que je te paie le bloc.
Pourquoi ? Parce que je serais obligé de le donner à l'ordre, et que tu détesterais faire ça. Moi, j'y serais contraint, c'est différent.
De plus, la statue sera très certainement détruite, et il faut qu'elle soit à moi quand ça arrivera. Je tiens à te payer.
Alors, à bout les 10 pièces d'or.
Richard posa l'argent dans la paume du forgeron et lui referma les doigts dessus.
« Merci, » souffla-t-il.
« Où veux-tu que je te livre la marchandise ?»
Richard tendit une nouvelle pièce d'or à son ami.
« Et si je te louais cet entrepôt ? D'ici, quand j'aurai terminé ma nuit de travail, rejoindre mon poste sur le chantier sera très facile. »«
Marché conclu. » »«
Tant que nous y sommes, voilà une 12e pièce pour que tu me fabriques les outils dont j'aurai besoin. »«
Il faudra que tu te surpasses, forgeron. »
Pense au burin qu'on fabriquait chez toi pour créer de la beauté. Ce marbre mérite d'être travaillé par le plus bel acier qui soit.
Des burins à lame épaisse pour dégrossir et toute une gamme à pointe fine pour ciseler. Tu auras tout ça, c'est promis. Quant aux marteaux et aux masses, tu te serviras dans mon impressionnante collection.
Il me faudra également des râpes et des rifloirs de différentes formes pour intervenir sur tous les types de volumes. Je compte aussi sur toi pour me procurer des pierres ponces, les meilleures, celles à grains très fins et très serrés, spécialement taillées pour correspondre à la forme des râpes et des rifloirs. Bien entendu, il me faudra une énorme quantité de pâte à polir.
Victor écarquilla les yeux. Venant d'un pays où les sculpteurs étaient tous de grands artistes, avant l'avènement de l'ordre, il devinait ce que Richard avait l'intention de faire.
« Tu veux que la pierre imite à la perfection la chair, n'est-ce pas ?»
« Exactement. »«
Et tu en seras capable ?»
Grâce aux statues qu'il avait vues en Dara et en Aïdindril, Richard savait que c'était possible. En conversant avec ses collègues sur le chantier, puis en se livrant à quelques expériences sur des fragments de statues, il avait conclu qu'un marbre de haute qualité, convenablement sculpté puis poli au maximum, pouvait refléter la lumière de telle manière qu'il perde ses caractéristiques minérales pour ressembler à s'y méprendre à de la peau et de la chair humaine. Quand on savait y faire, la statue finale était si réaliste qu'on s'attendait à tout instant à la voir bouger.
« J'ai vu de mes yeux le résultat que je veux obtenir, » dit-il, « et je sculpte depuis très longtemps. Ces 2 derniers mois, tout en trimant pour l'ordre, je me suis exercé sur de petites parties de mes personnages. L'idée de travailler sur ton bloc me trotte dans la tête depuis longtemps. Quand j'étais en prison, je crois que c'est ça qui m'a empêché de baisser les bras. Je m'imaginais devant le marbre, mes outils à la main, et tout le reste ne comptait plus.
Tu veux dire que ça t'a aidé à supporter la torture ?
Richard hocha imperceptiblement la tête.
Je peux le faire, Victor. Sous mes mains, la pierre deviendra vivante. Mais pour ça, j'ai besoin d'outils hors du commun.
Tu les auras. Parole de Casquelle. Je serais incapable de sculpter quelque chose, mais là, nous sommes dans ma partie, et ça me permettra de contribuer à la naissance de la beauté.
Les deux hommes se serrèrent la main pour conclure leur pacte.
Victor, dit Richard, j'ai une faveur à te demander.
Tu veux que je te fournisse en lardeaux pour que t'aies la force de travailler ce magnifique marbre?
Tu sais bien que je ne refuse jamais une bonne tranche de lardeaux, mais ce n'est pas ça.
Quoi d'autre dans ce cas ?
Le sourcier caressa du bout des doigts le bloc de marbre. Son bloc de marbre.
Personne ne devra voir la statue avant qu'elle soit terminée. Toi compris, mon ami. Je voudrais une bâche pour la recouvrir chaque matin, et il faudrait que tu me promettes de ne jamais la soulever.
Pourquoi donc ?
Parce que la statue devra n'être qu'à moi pendant que je la sculpterai. En travaillant, j'aurai besoin de solitude. Quand j'aurai fini, tout le monde pourra la regarder, mais jusque-là, mes yeux seuls auront le droit de se poser dessus. C'est très important pour moi, Victor. Mais ce n'est pas tout. Si quelque chose tourne mal, je refuse que tu aies des ennuis. Si tu sais ce que je fais, on t'inhumera dans le ciel quand on découvrira que tu ne m'as pas dénoncé.
Si tu veux qu'il en soit ainsi, je n'y vois pas d'inconvénient. Je dirai à mes gars que l'entrepôt est loué et qu'ils n'ont plus le droit d'y entrer. Par sécurité, je ferai poser un verrou sur la porte intérieure et des chaînes sur l'extérieur. Bien entendu, toi seul auras la clé du cadenas.
Merci. Tu ne sais pas à quel point c'est important pour moi.
Quand te faudra-t-il les burins?
Peux-tu avoir fini pour ce soir les pointerolles et les bouchardes? Le temps presse et il faut que je m'y mette sans tarder.
Ne t'inquiète pas. Tu auras tout en temps et en heure. Les pointerolles et les bouchardes ne posent aucun problème. Elles t'attendront quand tu viendras soir après t'être échiné sur les horreurs de l'ordre. Et les autres burins seront prêts quand tu en seras à peaufiner ta magnifique statue.
Merci, Victor.
T'as pas bientôt fini de me remercier. Nous avons conclu une affaire et tu m'as même payé d'avance. Un marché équitable entre deux honnêtes hommes.
Si tu savais ce que je suis content d'avoir un autre client que l'ordre.
Victor sourit, puis il se gratta la tête, redevenant sérieux.
Tes commanditaires vont vouloir voir le travail en cours, tu ne crois pas? Ils désireront vérifier que tu suis leurs indications.
J'en doute. Ils savent que je sculpte bien. Et ils m'ont donné une maquette à copier. Ma vie dépend de cette statue. Et Neil m'a parlé du sort qu'ont connu les sculpteurs contestataires. C'était pour m'effrayer, et il est assez arrogant pour penser avoir réussi.
Mais que feras-tu si un frère vient quand même jeter un coup d'œil à ton œuvre?
Il faudra que je lui enroule une barre de fer autour du cou, avant de le mettre à mariner dans ton baril de saumure.